100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Travail forcé, exploitation sexuelle, la traite des êtres humains rapporterait aux trafiquants plus de 2 milliards et demi d'euros par an en Europe, selon les chiffres de l'ONU. C'est l'une des activités illicites les plus lucratives, avec une quasi-impunité. Madrid est ainsi devenue la capitale européenne de la prostitution en quelques années, les réseaux bénéficiant d'une législation très floue. Le reportage de Diane Cambon à Madrid.
Club de charme, bar à hôtesses, petit club ou appartement transformé en bordel, la ville de Madrid regorge d'endroits où la prostitution s'exerce sans aucun interdit. À quelques mètres de la gare d'Atocha, en plein centre, plusieurs immeubles dissimulent à peine leur vocation. Ce sont des maisons closes, gérées par des proxénètes, la majorité d'entre eux provenant des pays de l'Est. Le tarif des filles est unique, 25 euros les 15 minutes. Une vingtaine de personnes y travaillent, jour et nuit, selon Raimé, membre d'une association de terrain contre l'exploitation sexuelle.
Les filles sont considérées comme des machines à faire du fric, rien d'autre. Elles doivent prévenir leur proxénète quand elles vont avec un client à chaque service sexuel et ensuite, ils passent relever les compteurs.
Depuis l'entrée en vigueur en 2015 de la loi de sécurité citoyenne, les prostituées sont moins visibles sur les trottoirs du centre de la capitale. La loi interdit de proposer ses services dans des zones de transit public et prévoit des amendes allant jusqu'à 3000 euros pour les clients et les travailleurs sexuels. Beaucoup d'entre elles ont donc choisi de faire le trottoir plus loin. La colonie Marconi, un polygone industriel à 15 km de Madrid, abrite quelques 200 prostituées, selon Raimé.
On a la sensation que c'est de la prostitution gérée en famille. Le cousin qui fait venir sa cousine et qui la met là, mais il y a aussi des réseaux plus structurés, plus organisés, venant notamment des pays de l'Est, cela ne fait aucun doute.
La prostitution est un commerce lucratif qui rapporterait 18 milliards d'euros par an. Même si elle n'est pas légale, elle est très bien tolérée socialement. Le flou juridique concernant son statut permet qu'elle soit ouvertement affichée, aussi bien dans les rues que par des publicités. Cette visibilité remonte à l'époque de Franco. Ce n'est qu'en 1956 que le dictateur décide d'interdire la prostitution sur la voie publique. Les femmes pourront continuer à vendre leur corps dans des appartements ou des hôtels à l'abri des regards. En 1995, la réforme du droit pénal avantagera encore un peu plus la pratique de la prostitution, car elle est légalement décriminalisée. Pour Irénée de l'association Aitara, ce statut est hypocrite.
En Espagne aujourd'hui, la prostitution n'est pas régulée, elle n'est ni interdite ni autorisée.
Les victimes de la traite sont chaque fois plus nombreuses car les chefs des trafiquants encourent des peines minimales, comme l'explique Irénée.
En Espagne, le degré d'impunité a été très élevé car jusqu'en 2010, il n'y a pas eu de réforme pour pénaliser le proxénétisme.
Pour Anna, membre de l'association Aitara, la légalisation est la solution contre le proxénétisme. Elle permettrait à celles qui exercent volontairement d'être à leur compte avec tous les droits dont bénéficie un travailleur.
Nous pensons que ce n'est pas la voie pénale qui doit s'appliquer, mais le code du travail. Dans un premier temps, il faut reconnaître que la prostitution est un travail comme un autre et que les travailleuses bénéficient des mêmes droits que tous les travailleurs. Ensuite, les travailleuses étrangères doivent avoir le droit de pouvoir solliciter la citoyenneté espagnole.
C'est aussi l'avis de Maria, une jeune femme de 35 ans qui exerce librement la prostitution.
C'est absurde qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y ait encore des milliers de personnes dans le monde qui doivent se cacher alors qu'elles vont travailler. Nous ne sommes pas des délinquants, nous ne faisons rien de mal. On ne doit plus nous considérer comme des scories ou des moins que rien.
Le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, appuyé par le très puissant mouvement féministe, s'oppose frontalement à toute légalisation de la prostitution. Il ne prévoit pas non plus de loi pour l'abolir. Une ambiguïté qui permet au commerce du sexe de continuer à prospérer. Selon l'association ONGD ANESVAD, 80% des prostituées en Espagne le sont contre leur volonté.
En Italie, les autorités ont démantelé le gang des briseurs d'os. Ils recrutaient des personnes à la rue et les payaient quelques centaines d'euros pour leur casser un bras, une jambe, afin de monter une arnaque aux assurances en déclarant de faux accidents de la route. Jusqu'au jour où l'une des victimes est morte des suites des blessures infligées, ça a permis de découvrir le poteau rose, le récit de Cécile Debarge.
300 euros la fracture d'un bras ou d'une jambe, 800 euros celle de deux membres et 1000 euros pour tout le corps. Voilà grosso modo les tarifs empochés par les victimes pour se faire volontairement briser les os. La police italienne a démantelé deux bandes de briseurs d'os à Palerme. 12 personnes ont été incarcérées dans le premier cas, 34 dans le cadre de la deuxième enquête, avec plus de 250 mises en examen et une cinquantaine de victimes qui ont accepté de parler. Car il ne s'agissait plus d'une simple arnaque aux assurances, mais véritablement d'un réseau d'exploitation d'êtres humains. Les casseurs d'os recrutés parmi les toxicomanes, les mères célibataires, les déficients mentaux ou les personnes atteintes de graves troubles psychiatriques. L'idée était simple, leur briser les os, puis leur faire déclarer un faux accident afin d'empocher les dédommagements de l'assurance qui pouvaient s'élever à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Armés de disques de fonte, habituellement utilisés pour la musculation, ou bien de valises remplies de pierres, les briseurs d'os ont infligé des blessures telles que certaines victimes ont déclenché des embolies pulmonaires ou ont été envoyées en réanimation. Le cas le plus grave, c'est celui d'Adri Yacoub, un Tunisien de 23 ans qui devait simuler un accident de la route et à qui les briseurs d'os ont administré du crack pour qu'il ne soit pas en état de se soustraire aux violences. Il a fait un infarctus et son corps sans vie a quand même été jeté sur la route pour faire croire à un accident. C'est à partir de l'enquête sur sa mort que la police a découvert le premier réseau qui impliquait également plusieurs criminels en col blanc, un avocat et des experts en assurance qui couvraient les agissements du réseau.
Ça paraît dire que c'est pas la tâche de Pérezèche.
Pour certains travailleurs partis tenter leur chance aux Pays-Bas, le rêve tourne au cauchemar. Avec sa bonne santé économique et son taux de chômage à 3,5%, le pays connaît une pénurie de main-d'œuvre qui attire les travailleurs venus d'Europe de l'Est et en particulier les Polonais. Mais certaines agences d'intérim n'hésitent pas à contourner la législation néerlandaise pour profiter de ces travailleurs vulnérables. Un reportage d'Arnaud Vernier et d'Annick Capel de la RTBF.
C'est une serre de plusieurs hectares. De part et d'autre de l'allée centrale, un interminable tapis de chrysanthèmes blancs et jaunes. Wouter Duivestein nous emmène entre les tapis roulants qui véhiculent des fleurs fraîchement coupées, 22 millions de tiges par an, une cinquantaine d'employés, la moitié sont polonais.
Nous ne pourrions pas produire tout cela sans l'aide des travailleurs venus de l'Est.
Nous sommes à Hoek van Holland, près de Rotterdam, dans une région qui vit essentiellement de l'horticulture en serre, un secteur en plein essor, à l'image d'une économie néerlandaise en grande forme.
Notre pays se porte bien économiquement et on a besoin de main-d'œuvre pour produire. Or, il y a moins de gens sur le marché de l'emploi et donc on apprécie de pouvoir faire venir des travailleurs d'un peu plus loin.
Ça, c'est l'immigration côté face. Côté pile, la réalité est moins reluisante. Depuis l'ouverture du marché du travail aux nouveaux États membres en 2007, 350 000 Polonais ont afflué aux Pays-Bas, mais la cohabitation n'est pas aisée. La pénurie de logements est source de tensions, comme ici à Maasdijk et ses 4400 habitants. Le village accueille aujourd'hui 500 Polonais et bientôt 250 de plus.
Si on construit le nouveau bâtiment qui est prévu, un habitant sur cinq sera un travailleur immigré. C'est beaucoup pour une petite agglomération.
John Whitcomb et Roel Batelaan craignent pour la qualité de vie de leur village.
Ici, c'est un des endroits où ils se rassemblent le soir. Ils laissent souvent des déchets, des bouteilles cassées, des mégots de cigarettes. Il y a de la drogue qui circule.
Pourtant, le quotidien des Polonais est loin d'être enviable. Dans l'ensemble, ce sont des agences d'intérim qui les recrutent. La plupart sont réglo, mais une poignée d'entre elles y voit surtout un business juteux, quitte à exploiter les travailleurs polonais. Nous rencontrons Bogdan, ancien cueilleur de tomates.
Par semaine, je gagnais environ 170 euros pour plus ou moins 80 heures de travail. Mais après, il fallait déduire les amendes, des soi-disant frais administratifs. Si on arrivait en retard de 5 ou 10 minutes, on devait travailler la journée gratuitement.
Hans Tunissen dirige un bureau qui vient en aide aux Polonais. Dans son classeur, une multitude de documents compromettants pour les agences d'intérim.
Ici, l'agence prétend qu'elle a versé cette somme à des travailleurs. Mais c'est la même personne qui a fait toutes ces signatures. Ça, c'est quelqu'un qui a fait la liste de toutes les petites sommes qu'il a dû payer chaque semaine. 20 euros, 30 euros. À chaque fois, on lui disait, il y a une erreur informatique, il faut rembourser.
Des travailleurs à la merci de ces agences d'intérim qui gèrent aussi leur logement et prélèvent directement leur loyer sur leur salaire. Hans Tunissen nous emmène à Vlaardingen, dans un immeuble qui héberge des Polonais. Nous entrons, mais nous ne sommes pas les bienvenus.
Je suis le concierge. Vous avez besoin d'une autorisation.
Nous prétextons un contact avec un locataire.
Alors je vous accompagne.
Ce qu'il vient de faire, entrer comme ça chez quelqu'un, c'est une violation de la vie privée.
Le concierge finit par nous expulser, mais nous arrivons à nous faire inviter chez un couple de Polonais. Un appartement de 20 mètres carrés, pratiquement insalubre, 700 euros par mois.
Il y a tout le temps de la moisissure. Chaque fois on nettoie, mais ça revient. J'ai signalé au propriétaire qu'il y a des cafards, de la moisissure, mais il ne fait rien. Et maintenant, je suis malade et je n'ai plus la force de me battre contre lui.
La loi néerlandaise prévoit que ce soit le propriétaire qui assume les travaux d'entretien. Mais si ce n'est pas le cas...
Raphaël Jaworski est médiateur.
Les gens doivent payer eux-mêmes. On manipule les gens, on les terrorise, on leur fait peur, on les fait chanter pour qu'ils obéissent. C'est de l'esclavage en 2019.
Lors de notre reportage, deux noms d'agences reviennent régulièrement. Nous les avons sollicitées. Elles affirment ne pas se reconnaître dans les situations décrites. Pourtant, le problème est dénoncé depuis plusieurs années par les médias néerlandais. Une réalité qui chagrine Wouter Duivestein, notre producteur de chrysanthème.
Ce n'est bon pour personne et je ne pense pas que cela puisse durer car, soyons honnêtes, si on ne traite pas les gens correctement, ils retourneront en Pologne.
Bogdan, lui, a déjà tiré ses conclusions.
Je vais rentrer en Pologne et je déconseillerai aux Polonais de venir aux Pays-Bas.
En Irlande, un syndicat a traîné l'État en justice pour dénoncer des conditions de travail proches de l'esclavage dans l'industrie de la pêche. En cause, un permis de travail spécifique aux ressortissants extérieurs à l'espace économique européen. Les Africains sont les premiers concernés. Avec ce permis, le travailleur est lié à son employeur, ce qui signifie souvent des journées de travail à rallonge, des salaires impayés. Le gouvernement a du coup passé un accord avec le syndicat qui a dénoncé ces pratiques pour normaliser la situation. Les explications de Julien Lagache.
Ils sont Ghanéens, Égyptiens ou encore Philippins venus en Irlande pallier le manque de main-d'œuvre sur les navires de pêche. Ils seraient un millier de clandestins à vivre et à travailler dans des conditions proches de l'esclavage moderne. Jusqu'à 116 heures de travail par semaine pour un salaire moyen de 3 euros de l'heure, peu de repos, aucune sécurité auxquelles s'ajoutent parfois discrimination raciale et mauvais traitements. L'Irlande avait pourtant déjà adopté en urgence un plan pour emploi atypique en 2016 afin de lutter contre le travail clandestin après des révélations du journal britannique The Guardian. Il s'agissait d'une dérogation pour permettre à l'industrie de la pêche de recourir en toute légalité à une main-d'œuvre étrangère venue de l'extérieur de l'espace économique européen. Seulement, ce permis de travail est payant et à la charge du demandeur qui se retrouve de plus lié à un seul employeur, celui qui accepte de faire la démarche pour lui, ce qui le rend dépendant de son patron. Et le faible nombre de demandes enregistrées laissent penser que la clandestinité reste la règle. La Fédération internationale des employés du transport a donc attaqué l'Irlande en justice l'an dernier, avec à l'appui des dizaines de témoignages relatant des journées de travail de 20 heures sans pause avec des problèmes de santé ignorés par les propriétaires de chalutiers. Fin avril, le gouvernement irlandais a fini par conclure un accord avec le syndicat. Les pêcheurs étrangers à l'espace économique européen auront désormais des contrats dûment établis en anglais et dans leur langue, ainsi que tous les documents nécessaires pour faire valoir leurs droits. Dublin a également promis de ratifier d'ici au 15 novembre la directive européenne sur le temps de travail hebdomadaire des pêcheurs. Toutefois, syndicats et associations s'inquiètent de voir la situation actuelle perdurer car l'absence de sanctions jusqu'ici suggère des contrôles inefficaces.
En Europe du Nord, la gauche gagne encore, alors qu'ailleurs, sur le continent, les partis sociaux-démocrates font face à une crise inédite. Exemple au Danemark, où Mette Frederiksen, qui dirige le Parti social-démocrate depuis 2015, vient d'être nommée première ministre. Anne-Françoise Hiver.
Comment récupérer l'électorat traditionnel, parti à l'extrême droite? Le défi est le même pour tous les partis sociaux-démocrates en Europe. Les Danois, eux, sont convaincus d'avoir trouvé la solution. Un programme à gauche sur les questions économiques et sociales, à droite sur l'immigration et l'intégration. La rupture date de 2015. L'arrivée de 32 000 réfugiés dans le pays a accéléré la mise en place de cette nouvelle stratégie avec un objectif officiel, défendre le modèle social danois. Nouvellement élue, la chef de file du parti, Mette Frederiksen, se rapproche du Parti du peuple danois, la formation souverainiste anti-immigration qui impose sa politique à la droite en échange de son soutien au Parlement. Durant les années qui suivent, les sociaux-démocrates votent quasiment chacune des restrictions proposées par le gouvernement et promet, après les élections, la ligne restera la même. Résultat, les électeurs issus des grandes villes diplômées désertent le parti au profit du centre et de la gauche. Mais Mette Frederiksen assume, car son parti, lui, se maintient au niveau de 2015, tandis que les populistes s'effondrent. Serait-ce donc là la solution à la crise de la social-démocratie en Europe? Suédois et Finlandais en doute, même mettent en avant la nécessité d'investir dans l'État-providence face au vieillissement rapide de la population. Mais dans les trois pays, les sociaux-démocrates ont beau gouverner, ils sont dépendants du soutien de larges coalitions. L'heure est donc au compromis, avec le risque aux prochaines élections de reculer encore un peu plus.
You are now about to witness the strength of democracy.
Lors de son dernier sommet européen, la Britannique Theresa May a remis en cause la stratégie de Boris Johnson sur le Brexit. Pourtant, l'ex-maire de Londres, ex-ministre des Affaires étrangères, reste favori pour lui succéder comme Premier ministre du Royaume-Uni, Béatrice Leveillé.
Il n'y a pas d'homme politique, même conservateur, qui, après la crise financière de 2008, ait autant soutenu les banquiers que moi. Je les ai défendus nuit et jour.
C'est ce genre de déclaration qui enflamme l'opposition travailliste et enthousiasme les militants les plus radicaux du Parti conservateur. Ravi également quand il envisage de réduire les impôts pour les plus riches ou de quitter l'Union européenne sans accord et sans respecter ses obligations financières. Sophie Henn, chercheuse à l'Université d'Oxford en Grande-Bretagne, spécialiste des questions européennes, elle publie « For a Sovereign Europe » chez Peter Lang.
Les électeurs conservateurs qui vont voter pour lui ou pour Jeremy Hunt ne sont pas véritablement représentatifs de l'ensemble de la population britannique, puisqu'il y a une surreprésentation des hommes blancs assez fortunés, et donc forcément cela va influencer leur choix d'un nouveau leader conservateur.
Boris Johnson a toujours aimé amuser la galerie. Journaliste à Bruxelles, il ridiculisait toutes les réglementations européennes, quitte à en inventer certaines. Mais ce sont ses apparitions dans une émission de divertissement à la télévision qui l'ont rendu populaire. Quand il était maire de Londres, son agenda était libéral et il défendait l'immigration et le mariage gay et restait malgré tout la coqueluche des conservateurs, qui apprécient son comportement excentrique. Sophie Louswarne, universitaire et spécialiste du Parti conservateur britannique.
Il a séduit les membres du Parti conservateur par son humour. C'est un humour qui plaît aux Britanniques et c'est quelqu'un de très cultivé, qui manie la métaphore et qui cite des phrases en latin et en grec. Mais parviendra-t-il à diriger un gouvernement? Il est imprévisible et c'est ce qui est à craindre. Lorsque Boris Johnson a été ministre des Affaires étrangères de 2016 à 2018, juillet 2018, lorsqu'il a démissionné au lendemain de la présentation du Chequers Plan par le Premier ministre Theresa May, il a fait énormément de gaffes et il a été très mal perçu. Oui, c'est lui, malgré tout, qui reste le grand favori pour succéder à Theresa May.
Une fois élu par les militants de son parti, il lui faudra affronter la vraie vie, c'est-à-dire la Chambre des députés et l'opinion publique, une autre paire de manches.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous nous réécoutez sur le site rfi.fr et vous retrouvez le podcast de l'émission sur les réseaux sociaux. À bientôt.